Et en fait, il y a quelques années, quand j'ai fait l'hôtel pour cette fête, en fait, j'ai représenté tout ça parce que ça me parle beaucoup, cette image. J'ai trouvé sur l'internet des images de démons et je les ai mis tout autour. J'ai vu des flèches et des fleurs qui tombaient. Et en fait, avec Chatagena, on en parlait. Je pensais, mais non, cette fois-ci, je ne peux pas faire ça. Je laisse ça dans vos imaginations. C'est à vous de voir tout ça, à votre manière. Je ne vais pas le rendre réel. On va rester dans la simplicité, juste avec le Bouddha, dans la nature, comme il était, en dessous de l'arbre du Bodhi. Et je voulais faire ça aussi parce qu'en fait, ce que je vais explorer dans cette histoire, c'est toute cette histoire de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est mythe, est-ce qu'il faut prendre littéralement cette histoire de Marat qui arrive comme une espèce de diable et avec ses armées, avec ses weapons et ses armes, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire tout cela. Donc c'est cette zone entre le mythe et la réalité que je vais explorer un petit peu aujourd'hui. Parce qu'en fait, une des choses dont je me suis rendu compte encore plus fortement pendant ma retraite solitaire, c'est c'est le mien, et j'imagine que je ne suis pas seule dans le monde, habitude de vouloir si les choses existent ou pas. Si les choses sont vraies ou pas. Et je vois ça dans le questionnement des gens qui viennent. Est-ce que le Bouddha a vraiment atteint l'éveil? Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche à quelque chose de, ouais, sur lequel on peut, qu'on peut toucher. Pareil pour les états méditatifs. Est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Qu'est-ce qui est vrai? C'est une question que nous posons à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux dans nos vies. Et nous avons vraiment une idée. C'est ça aussi quand j'essaie d'expliquer la nature changeante des choses, le non-soi, l'idée de non-soi qui est centrale au bouddhisme. Je vois mon propre esprit et je vois les esprits des gens que j'enseigne. On bascule entre ça existe ou ça n'existe pas. Mais cette idée que il y a une réalité devant nous, mais ça, ce n'est pas vrai. on n'y arrive pas, si vous voyez ce que je veux dire. On bascule entre oui, ça existe, je le vois, je le sens, je l'entends. Mais non, ça n'existe pas exactement comme ça. Alors, ça n'existe pas. Mais comment ça se fait que je le vois on n'arrive pas à rester un peu dans ce mi-ombre quelque part entre les deux. Et c'est pareil, on se demande avec ce genre d'histoire par rapport au Bouddha, ce n'est pas vrai, il n'y a pas vraiment un Mara, il n'y a pas vraiment les missiles qui sont venus, les choses ne peuvent pas changer en fleurs comme ça, c'est un mythe, c'est une histoire, c'est un conte. Et donc c'est très tentant de le mettre de côté, parce que ça semble pas être vrai. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que c'est réellement passé? On veut savoir les faits. Donc je veux regarder un peu plus près pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon réel? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que pour nous, pour la plupart du temps, ça veut dire tangible. Ou ça veut dire que ça entre quelque part dans l'expérience que nous avons déjà fait, quelque chose que nous connaissons déjà. Mais en fait, si on reste avec cette idée de tangible ou de mesurable, qu'est-ce qu'on peut dire de nos pensées alors, et nos émotions et nos idées et nos convictions, mais en même temps, il n'y a pas de réalité tangible dans tout ça, mais pour nous c'est vrai, hein, quand on est en colère, c'est vrai. On a beau à dire que c'est juste un mouvement énergétique dans le corps, et puis c'est une pensée qu'on ne peut même pas toucher, c'est vrai pour nous. Donc c'est quoi cette idée de réalité? Et en fait, pareil pour nos rêves, en fait. Nous pensons qu'il y a la réalité de tous les jours, et puis nos rêves qui ne sont pas vrais, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment tellement de différence? Parce qu'au moment de quand on est en train de rêver, c'est très très vrai. Et en fait, pour nos ancêtres et pour le Bouddha, les êtres non humains étaient réels. Le Bouddha, la déesse de la terre, le Mara, la déesse de la terre, les filles de Mara, il y avait des Devas, il y avait tout un tas de démons, des Yakshas, des Gandharvas, les dieux, il y avait tout un tas d'êtres. Et en fait, il y a beaucoup d'histoires du canon Pali, des anciens textes, qui racontent des rencontres entre le Bouddha et des êtres non humains, et des conversations entre le Bouddha et les êtres non humains, qui sont très très amusants parfois, et très, je les aime beaucoup. Et pour eux, c'était vrai. Et même pour nos ancêtres en Occident, les faits, les trolls, les tout, les sortes des êtres non humains, ça existait. Ça existait avant l'Église catholique arrivée, et avant le scientisme arrivé, avant tout le reste. Donc, qui sommes-nous à dire que ce n'est pas vrai? C'est notre vision d'aujourd'hui qui dit que ce n'est pas vrai. Pas si longtemps que ça, c'était vrai. Donc, d'abord, j'aime bien juste rester avec ça, juste nous questionner un petit peu sur nous-mêmes, sur notre littéralisme, notre matérialisme par rapport à ce genre de choses. Et puis, de toute façon, si nous regardons nous-mêmes, n'est-ce pas le message du bouddhisme, d'une certaine manière, c'est que nous ne sommes pas vrais de la façon dont nous imaginons être vrais. Nous avons tous appris l'insubstantialité, l'impermanence, nous essayons toujours de comprendre cette idée, nous n'existons pas de la même manière que de la manière dont nous pensons exister. Et en fait, est-ce que apparemment quelqu'un est allé voir Dante un jour et lui a demandé si les Bouddhas et les Bodhisattvas dont on parle, sont vrais. Est-ce qu'ils sont vrais? Et Dante, apparemment, il y a beaucoup d'histoires de ce que Dante a dit, mais voilà, apparemment, il a dit, ils sont aussi vrais que vous. Et donc voilà, c'est bien, ça fait penser, ça fait réfléchir d'une certaine manière. Donc peut-être Mara est aussi vrai que nous. Peut-être il est vraiment là. Peut-être c'est vraiment lui qui nous inspire nos états d'esprit négatifs et tout. Mais voilà, je veux pas argumenter pour la réalité de ces choses. Juste pour, citer un peu pour vous demander, ne restez pas avec vos idées fixes par rapport à ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Parce que je trouve que c'est bien d'ouvrir un petit peu l'esprit de cette manière-là. Mais je pense que c'est intéressant cette histoire parce que si, par exemple, je vous parle de ma mère et de mes frères et sœurs, vous allez imaginer une mère et des frères et sœurs et vous allez croire que ce sont des vraies personnes. Pourtant, une grande partie de vous, vous n'avez jamais vu. Vous ne savez même pas si c'est vrai que j'en ai encore une mère et que j'ai des frères et sœurs. Mais pour vous, si je vous en parle, c'est de la réalité. Vous imaginez peut-être même des têtes, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un. Et peut-être même la prochaine fois, vous allez me demander « comment va ta mère ?» Mais si je vous parle d'un monstre qui habite chez moi, vous n'allez pas me croire, je crois. Vous n'allez pas me demander la prochaine fois « et le monstre, comment va-t-il ?» Et pourquoi pas? Peut-être parce que vous n'avez pas des monstres chez vous, vous avez des mères et peut-être des frères et sœurs peut-être. Mais si je vous dis que j'ai un monstre qui est chez moi et c'est mon petit neveu qui n'arrête pas de faire des bêtises et des blagues et qui fait du bruit et qui embête les voisins, et vous allez me croire, je crois. Vous allez comprendre la métaphore que j'utilise en parlant du monstre. Et je dis ça pour montrer qu'en fait, même notre langage, d'une certaine manière, ça nous permet de vivre entre l'existe et le n'existe pas. Je peux parler d'un monstre, d'une certaine manière. On comprend la métaphore. Et là, ça nous dit quelque chose. Donc, ce monstre existe chez moi, d'une certaine manière. si ce n'est pas mon neveu, ça pourrait être mes propres états d'esprit, en fait. Je crois que si je vous parlais d'un état d'esprit de colère ou de frustration ou de négativité que j'avais et que j'en parlais en termes de monstre qui habitait avec moi et que c'est là presque tous les jours récemment, bon, vous allez me croire aussi d'une certaine manière. Ça va vous dire quelque chose. Et en fait, si on regarde, c'est vraiment très très vrai avec l'anglais, mais je crois que c'est aussi avec le français. Si on regarde notre langage, si on regarde notre façon de parler, en fait, on trouve du métaphore, on trouve des images, beaucoup. J'essaie de, vous savez, quand on essaie de penser à des exemples comme ça, l'esprit se vide complètement. Mais j'ai pensé à une expression en français où on dit, ben voilà, il est à côté de la plaque. Mais quelle plaque? Mais tout le monde sait ce que c'est. Mais il n'y a pas de plaque. Il n'est pas vraiment à côté. Donc, je sais que. Donc, quelle est la réalité de cette expression-là? Et on a plein d'expressions. Et donc, on évoque des images tout le temps pour parler de quelque chose. Parce que si je vous dis cette expression, ça vous dit quelque chose. Donc, comment comprenez ce que ça veut dire? Et en fait, je crois que si on regarde bien en dessous nos habitudes littéralistes, matérialistes, scientistes, on a tous ces niveaux de métaphores, d'images, de nuances, de choses qui sont pas tangibles, mais qui sont vraiment vivants et réels pour nous. Il y a aussi tous les archétypes qu'on trouve dans la psychologie, il y a dans notre culture en fait énormément, et toutes les mythes, la mythologie de notre culture qui est encore là si on cherche bien. Je crois que c'est de plus en plus caché de nos jours, mais en fait c'est encore là et accessible. Et je vous parle de tout ça parce que pour le bouddhisme, tout cela faisait vraiment partie du monde, ça faisait partie à l'époque de la façon de voir les choses. Ils n'avaient pas la science qui décortiquait les choses, qui décidait que ça existait ou ça n'existait pas. Et pourtant, il faut se reconnaître aussi que même les choses dont la science parle, en tant que réel, en tant qu'existant, c'est pas si évident que ça. Les atomes, les quarks, les trous noirs, moi je n'ai jamais vu, j'en ai jamais touché. Mais on croit à ça aussi, hein, on croit que c'est réel parce que la science nous dit que ça existe. Et le bouddhisme n'avait pas toute cette attitude. À l'époque, les gens vivaient comme je vous ai dit, dans notre civilisation aussi, les gens vivaient en relation avec les maras, les devas, les êtres extraordinaires, les êtres non humains autour de les arbres avaient un âme, la nature avait une personnalité. Et je crois que si on veut, si on veut vraiment comprendre ces histoires un peu mythiques du bouddhisme, il faut essayer quand même de nous ouvrir à ce niveau-là, essayer de nous ouvrir un petit peu à ce symbolisme et laisser de côté cette question, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est réellement passé ou pas, et juste écouter ce que ça veut dire pour nous. Pour le bouddhisme, la ligne entre réel et non réel, c'est pas clair et net comme nous l'imaginons, et d'une certaine manière c'est même pas une question qui se pose, on pourrait dire. Pour le bouddhisme, rien n'existe réellement dont nous l'imaginons, donc ça, la question se pose pas. Et en fait, ce qui est réel pour le bouddhisme, la seule chose qui existe, c'est l'expérience de chaque moment, ce que nous vivons ici et maintenant. Le reste, c'est que de l'interprétation. Nous interprétons notre existence et nous l'appelons moi et lui ou ceci ou cela. Donc en fait, l'interpréter en tant qu'un mara existant à l'extérieur ou l'interpréter comme, comme un état d'esprit, bah, c'est également réel d'une certaine manière pour le bouddhisme. Ou également non réel.